séance. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans l'émission En Séance, votre rendez-vous quotidien avec l'Académie des sciences morales et politiques, en l'occurrence la retransmission de la séance publique du lundi après-midi 15h, une séance placée sous la présidence de l'historien Jean Tullard qui a défini comme thème de travail cette année l'histoire, faut-il faire confiance aux historiens ? Et le lundi 20 juin 2005, en petite salle des séances, s'exprimait Monsieur Jean-Louis Servan-Schreiber, journaliste, essayiste, éditeur fondateur du magazine Psychologie, Jean-Louis Servan-Schreiber, venu plancher devant les membres de l'Académie en séance publique sur l'histoire au péril des médias. Nous rejoignons tout de suite la petite salle des séances.
Devant une assemblée savante, le journaliste doit assumer son ignorance ou se taire. J'ai donc jugé plus prudent de m'adresser à vous aujourd'hui également en qualité de citoyen et téléspectateur, deux facettes de moins en moins dissociables chez tout contemporain. Mes connaissances ne s'en sont pas accrues d'un iota. Mais peut-être pourrais-je espérer de votre part une nuance supplémentaire d'indulgence. Né après le cinéma et avant la télévision, j'ai bénéficié, comme nous tous, des représentations que l'un comme l'autre nous ont offertes de nombreuses circonstances historiques. Comme vous, j'en ai été souvent attiré, charmé, passionné, mais quelquefois aussi perplexe, insatisfait, voire consterné. Ces décennies d'expériences mitigées ne m'ont pas pour autant détourné de mon écran, car quand s'annonce pour le soir un film ou un document historique, j'essaye d'être présent. L'occasion s'en présente encore souvent, ne serait-ce que durant la semaine du 4 au 10 juin. On nous a proposé pas moins d'une quinzaine de films ou documentaires à caractère historique, sans compter la chaîne Histoire, dont deux moments forts, Nuit noire de Tasma, sur laquelle il voulait tuer De Gaulle, de Philippe sur TF1. La fascination fonctionne toujours. Mais l'exigence s'est aiguisée. C'est un peu au nom de mes emballements comme de mes déceptions que j'ai choisi ce sujet de l'histoire au péril des médias, de notre vécu commun. Ils étaient faits pour s'entendre et même s'aimer. L'histoire, grosse de récits, de héros, d'intrigues et d'énigmes. L'histoire qui nous offre nos racines, nos cultures, notre culture, nos ancêtres, et qui contribue tant à nous révéler notre territoire, à construire notre identité d'individu et de citoyen. Et les médias, nos contemporains, cinéma, puis télévision, magie de l'image vivante, puissance souplesse au-delà de la réalité et du temps. Dès leur rencontre, ce fut le coup de foudre. Louis Lumière, l'inventeur, tourne dans ses studios Une mort de Robespierre dès 1897, suivi d'une mort de Marat. Méliès, le magicien, met en scène le premier Jeanne d'Arc en 1900. Et Calmette et Lebargie s'emparent de l'assassinat du duc de Guise en 1908. Pas très gai tout ça. Mais il faut croire que le cinéma, encore balbutiant, ressentait le bec et aux sujets nobles et tragiques pour se faire prendre au sérieux. Un chemin que près d'un demi-siècle plus tard suivra à son tour la télévision, entrée dans nos foyers à un moment de notre propre histoire où notre identité a quelque bleu après l'effondrement de 40 et l'occupation. Dans les années 50, la télévision fera de son mieux pour nous restituer en grandes fresques historiques notre passé glorieux. Pour celui qui des moins, il faudra attendre un peu. L'émission emblématique est alors La caméra explore le temps à partir de 1957, suivi de Présence du passé, de Jean Chérass, qui m'a précédé ici, dont se dérantaient les extraits de son remarquable Valmy. L'histoire et les médias. Le couple semblait promis à une relation providentielle. Les médias offrant à l'histoire ce qui lui manquait, l'incarnation et le mouvement, la voir presque la ressusciter. Jusqu'ici, nous n'avions accès à notre passé qu'à travers les mots imprimés ou les vestiges matériels, monuments, œuvres d'art, objets et reliques, sans oublier les savoureux. Soudain, les siècles s'animent devant nous. Un de nos fantasmes semble enfin accessible nous voyageons dans le temps. L'histoire était matière scolaire, érudition, thème de polémique et pilier de successives légitimités politiques. Quand elle touchait l'émotion populaire, c'était plutôt par des grandes commémorations, le roman ou l'épopée poétique. Waterloo, Morne Plaine, il y a 190 ans avant-hier. Voici soudain qu'elle devient familière, qu'elle parle à tous, y compris à ceux que rebutent les livres. Culture de masse, formidable opportunité. Mais ainsi incarnée par l'image, l'histoire nous touche sans recul, en nous donnant l'illusion du réel, voire du vrai. Or, l'histoire des historiens ne se veut-elle pas science, recherche de l'intelligence des faits, d'une exactitude pétrie de nuances, voire de doutes? Peut-elle s'accommoder de la simplification, du raccourci, de la dramatisation inhérente à tout récit en images? L'histoire sort-elle embellie ou trahie de ce traitement qui bouscule ses traditions d'investigation? Formidable risque. Au péril des médias. Quels médias? La télévision, bien sûr, mais aussi la presse, la radio, le cinéma et maintenant Internet. Tous agissent sur nous, chacun joue sa partition. Mais comme nous n'avons qu'une poignée de minutes pour évoquer ensemble ce sujet, j'ai choisi de m'en tenir à ceux qui nous offrent les images vivantes, toujours un peu magiques, télévision et cinéma. Leurs moyens sont différents. Leurs modes d'expression sont contrastés, comme pouvait l'être d'un côté un Paris brûle-t-il en 1965 et de l'autre la série d'émissions Alain Decaux raconte à partir de 1969. Mais très vite, le cinéma n'est-il pas devenu un affluent du fleuve télévisuel et en ce qui concerne l'histoire à partir des dossiers de l'écran il y a 40 ans. Aujourd'hui, dès la gestation d'un film, une chaîne se penche financièrement sur son berceau pour s'assurer qu'il finira par la rejoindre. Un film qui n'aurait eu qu'un million de spectateurs en salle, en avoir 10 millions, ou presque. Pour le téléspectateur, l'histoire à la télévision, fusion d'un grand film ou d'une fiction historique. Voici donc que depuis plus d'un siècle, le cinéma et la télévision, successivement, puis ensemble, se sont saisis. Qu'en ont-ils fait? Dans quel état nous l'ont-ils rendu? Abordons d'emblée la question majeure, celle qui, bien avant l'irruption des médias, se pose à tout historien, celle de la vérité historique. L'image l'a-t-elle fait progresser ou mise à mal? Les deux peut-être, mais dans la proportion d'un cheval, une alouette. Les documents historiques pérennisent un instant devenu décisif pour notre destin collectif. Aucune photo pour nous restituer le visage exact de Louis XIV ou de Napoléon. Mais toutes les générations actuellement vivantes en France ont vu de Gaulle descendre des Champs-Élysées la Libération. Vérité indéniable. Mais vérité alouette, en face des innombrables sources de déformation inhérentes au maniement des images du passé. D'abord celle qu'une image fait preuve, bien plus que des mots. Personne ne songerait à contester que le général est descendu l'avenue. Alors que faute visuelle sur les chambres à gaz, le révisionnisme. Or, l'image n'est pas l'événement, seulement son reflet. Elle peut être présentée hors contexte, détournée dans son sens. Mais la présomption de crédibilité de l'image s'étend par une sorte d'osmose aux fictions historiques. Même si nous savons que ces dernières ne prétendent pas à la vérité, les scènes qu'elles nous représentent nous laissent, par leur force dramatique, des impressions et des souvenirs qui, eux, sont bien réels. Tout documentaire, tout film d'histoire est le fruit des choix de son auteur, de ses préférences et de ses connaissances. Ce bien n'est guère différent de celui qui affecte la rédaction d'un ouvrage historique. Mais il est fendu par les contraintes et les limites de la mise en image. Un documentaire ne peut utiliser que les photos ou les événements filmés disponibles. Si les parades militaires de la Place Rouge ont été amplement enregistrées, aucune caméra ne s'est jamais glissée au Soviet suprême. On construit le documentaire avec elle dont on dispose, et c'est toujours insuffisant. La durée des documentaires ou des films historiques est nécessairement limitée. Comment peut-on comparer les détails ou les nuances qui peuvent faire de vidéo avec celles que peut offrir un livre de 400 pages? pour faire vivre un moment d'histoire. Rien de plus suggestif que la fiction. Or, celle-ci rend populaire l'histoire dans la mesure même où elle la déforme. L'anecdotique n'est-il pas souvent plus médiatique que l'essentiel ? Ce qui fait le succès d'audience d'une soirée consacrée à l'histoire n'a que rarement à voir avec l'exactitude du récit. Dans le récent Napoléon de Didier Decoin et Yves Simoneau, le temps consacré à Joséphine ou Marie Walewska dépassait celui accordé aux batailles décisives ou aux dilemmes politiques de l'empereur. Sans parler pour le rôle-titre qui tirait l'œuvre vers la parodie. À la télévision, l'histoire est d'abord un spectacle qui, on le sait depuis Molière, a pour plus grande règle celle de plaire plutôt que d'être exact. On ne peut guère en faire reproche à l'être vrai, n'est pas en tête de son cahier des charges. Ce qui transforme le passé en histoire, c'est sa mise en forme par l'imagination et les mots des hommes. Tout récit historique ne peut donc être que plus ou moins lacunaire, même de la part de ses acteurs et témoins directs. Le filtre télévisuel n'aggraverait-il pas cette tendance ? Un des rôles les plus traditionnels de l'histoire est de contribuer à former une nourriture nationale, pour le meilleur et pour le pire. Ce dernier, au gré des régimes ou des événements, pousse l'histoire vers la légende, voire le mythe. La symbolique de Vercingétorix ou Jeanne d'Arc, nos héros de l'école primaire, n'est-elle pas plus importante que la précision de leur biographie ? Au moins, nous était-elle exposée par des maîtres s'appuyant sur des livres dûment estampillés. Mais comment trouver une cohérence entre la Jeanne de Dreyer et Mila Jovovich dans le récent film de Luc Besson ? La puissance de l'image est telle que si Le chagrin et la pitié en 1971 avait été un livre, sa thèse n'aurait peut-être pas suffi à changer notre regard sur la France sous la botte allemande. Mais tourné pour la télévision, il n'a pu être diffusé d'une tranche unanimement résistante. Une telle censure serait aujourd'hui trop visible et d'ailleurs inutile car les chaînes ont bien intégré dans leur choix de scénario le souci de ne pas trop déranger. D'ailleurs, l'exaltation du sentiment national n'est-il pas suspect d'être utilisé comme missile anti-européen ? Sans que l'on soit pour autant à même surtout que pourrait être un sentiment d'identité européenne. La force du média lui fera toujours porter une responsabilité supplémentaire par rapport au livre, celle de l'exemplarité. La chute. Le docu-fiction allemand d'Olivier Hirschblegel sur les derniers jours d'Hitler dans son bunker en est le plus récent exemple. Son réalisateur a tenu à s'appuyer sur les travaux de plusieurs historiens pour ne pas prendre de risques sur un sujet hautement sensible dans son... comme ailleurs. Mais il n'a pu échapper à la polémique. Parce qu'il représentait le Führer comme un vieillard au bout du rouleau, on lui a reproché de faire prendre en compassion celui qui doit rester actuelle et à venir comme l'archétype du monstre dément. L'histoire filmée aurait-elle été au-delà de la recherche de l'exactitude ? Les contraintes du documentaire historique, a priori plus réelles que la fiction, proches de l'évocation libre que du récit objectif. Non seulement nous l'avons vu parce qu'il faut faire avec ce que l'on a, mais du fait que les documents eux-mêmes, les fabriqués, seraient avec les meilleures intentions du monde. Pratiquement, aucune des scènes de guerre filmées pendant la Première Guerre mondiale n'est authentique. Les armées réalisées pendant les périodes d'accalmie sur le front. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les scènes de la jonction entre les armées américaines et soviétiques à Torgau et les fraternisations qui ont peu après qu'elles aient effectivement lieu. On sait que lorsque les premiers éléments des armées britanniques et soviétiques arrivaient dans les camps de la mort, ils n'avaient pas avec eux les caméras pour saisir la scène. Les déportés, déjà le jour suivant, a figuré pour l'histoire. Même la poignée de rappelait Jean Chéra, peut-être un montage. Pourtant, on pourrait dénier une valeur historique et charger d'émotions à ces mêmes. Les pires et les lieux ne sont-ils pas aujourd'hui en léger différé ? Devant cette assemblée, Henri Pigeat insistait tout récemment sur les rôles bien différents de l'historien et du journaliste, rôle d'historien de l'immédiat. Mais les nécessités ne peuvent trop s'embarrasser de ces nuances. Les archives des actualités pâtées, comme celle à l'INA des journaux télévisés, constituent une manière remplaçable pour exhumer les images de périodes récemment révolues. Ainsi, un reportage de l'éphémère histoire pour peu que l'on patiente quelques décennies. S'il manquait d'objectivité le jour de son tournage, il n'en aura pas davantage 40 ans. Mais, ou de l'oublier. Que l'histoire subisse les contraintes de la télévision ne saurait nous étonner. Si je puis dire, nous en sommes tous là. Son écran obsessionnel malaxe dans chacun de nous au-delà de ce que nous sommes prêtres. La télévision, et à ce titre, soumet à ses normes et à ses horaires même la vie politique. Elle éveille nos désirs de consommateurs comme elle diffuse les standards et les valeurs contemporaines. De plus en plus relayée, elle contribue à élargir notre vision du monde de façon stupéfiante. Mais par contraste, tout ce qui n'apparaît pas sur un écran est voué à l'anonymat. Il en est donc ainsi pour l'histoire en images. Comme tout spectacle, elle subit les contraintes de la recherche d'audience. Pour toucher le public, on tournera volontiers des sagas historiques sur des personnages que sur des époques. Un moulin sont plus faciles à financer qu'une reconstitution de la guerre de 70. Un événement catastrophique à grand comme les derniers jours de Pompéi bénéficiera des dernières technologies, mais la vie au Moyen-Âge, thème pourtant fascinant, reste histoire, faute de ressorts dramatiques. Les gros budgets pour les visions sont directement liés à la présence de vedettes qui attireront plus le public que le sujet traité. Naguère, Bourville ou Belmondo, aujourd'hui Depardieu ou Deneuve, passé forcément romancé. Heureusement pour l'histoire, les réalisateurs de cinéma semblent à même de réunir pour l'historique des budgets plus conséquents que les seules chaînes. Ainsi, les jeunes d'aujourd'hui ont découvert la violence du débarquement en Normandie grâce à Spielberg et Soldat Ryan, comme nous, à travers Le jour le plus long, où ils ont découvert leur rocher avec, récemment, Dimanche de fiançailles de Jeunet. Gros budget implique. On peut donc donner vie à l'histoire avec des investissements. Avec les ressources nécessaires pour reconstituer la fin de Pompéi, par exemple, on aurait pu tourner 10 conférences de Wannsee, remarquable évocation du 142, les nazis ont mis en œuvre de la solution finale. Film. N'a tenu que 3 semaines dans une salle du quartier latin. Alors, millions de téléspectateurs en a dizaines de pays. Rationnellement, on prit la télévision connaissance de l'histoire dans le grand public. Bien le cas. Mais de manière élective, en fonction des modes sur tel personnage ou au gré des fameuses commémorations porteuses d'émotions. Ce qui n'a guère de rapport avec ce qui permet seul de progresser vers une vraie culture historique. Cette recherche de l'émotion prime sur la pédagogie propre insu, sur nos attitudes et nos comportements. Ainsi, nos représentations personnelles, des personnes ou non, sont plus influencées par la fiction que par le documentaire. Bien que, par exemple, pas eu d'image de l'extérieur, n'ont acquis une vision concrète, mais fictive. Question des Juifs, ceux qui ont vu Le choix de Sophie ou la liste ou Amen de Costa revient à l'esprit quand il est question de cette période tragique devant eux. Fictions finissent par devenir indémêlables de la grande histoire. Si chaque documentaire, Stob, diffuse la scène de la prise d'air, or qu'il se souvient, mais d'Eisenstein, octobre. Souvenirs finissent par se nourrir d'images. Enfant, j'ai vécu le Paris de l'occupation. Je me souviens par exemple de ces panneaux de bois pris en noir en caractère gothique, comme en. Ils servaient de signalisation en Marthe. Mais pour avoir aussi vu ces mêmes panneaux, dans tant de photos ou de documentaires, je reconnais être incapable de dire propre ou se nourrissent de cette mémoire collective. Je fais aussi partie de ceux, nous sommes plus nombreux ici, qui ont pu voir en direct les Boeing percuter les tours du World Trade Center. Mais comme depuis ces images ont été répétées, et puis lesquelles sont mes origines, et au fond quelle importance. Anecdotes personnelles veulent seulement souligner combien la représentation historique, en direct ou en différé, joue sur notre psychisme, sur notre imagination et notre réflexion. Ce qui nous en reste est révélateur de nos processus mentaux. L'histoire vue s'imprime davantage en nous que l'histoire lire plus facilement que les mots. Or, l'histoire vue est toujours une histoire déformée. De la puissance de la télévision, nous voici publics davantage habitels. belle salle appartenant à une espèce en voie qui a connu le monde avant la télévision. Pour l'immense majorité des habitants. La plupart, leur histoire s'est faite en quelque sorte en direct. Qu'ils aient ou non participé à la guerre d'Algérie, au 108, à la première marche du mur du Berlin, même si c'était, ils en sont ressortis, ils en ont ressenti un abandon. Ils retournent sur leur propre passé. Ils y trouvent ces images, se dire comme Goethe, j'y étais. Nous chargeons donc la télévision de transitoire, porte en quelque sorte garante. Au moment de la mort de Jean-Paul II, les innombrables pèlerins qui faisaient la queue 10 heures devant Saint-Pierre de Rome, entier, je suis venu, parce que c'est de l'histoire. Meilleure preuve, était à leurs yeux, filmé, en train de dire, c'est de l'histoire. Si tout ce qu'on enregistre est loin d'être historique, désormais ce n'est pas filmé, même si c'est un être mémorisé par les générations à venir. À cet égard, de même que l'on fait le partage entre la préhistoire et l'histoire, la différence venant que la première n'a pas, devrait-on pas désormais parler d'histoire prémédiatique? On constate en effet la dominance télévisuelle de l'histoire contemporaine. Cette dernière synthèse des documents disponibles et la présence de ses témoins. N'est-ce pas grâce à ceci, par exemple, que l'ample relation de l'Holocauste, alors même que les noms faisaient défaut? Chaque génération du dernier a vécu une part d'histoire racontée, la sienne ou celle de ses parents. Pas étonnant condition que l'on n'évoque plus guère française, sauf au moment du bicentenaire. Continue à hanter concrètement nos soirées. Au-delà d'un siècle, l'histoire n'émerge semble en fiction. Et les livres historiques qui deviennent des best-sellers construits selon les règles du système. À part pour quelques lettres, ne serions-nous asthmatiques. Si les médias n'ont pas laissé l'histoire indemne. En même temps qu'il eut une vie jusqu'ici inimaginable, ils l'ont suivi une formation qui en résulte. N'ont-ils pas pour objectif, non pas de servir l'histoire, mais de lutte spectaculaire? Faut-il s'en affliger au moment où l'enseigne discipline dans ses horaires? Il me semble que non. Car même subjective, romance ou vedettarisée, l'histoire parmi nous, en familier, essentielle à notre survie. Les peuples qui oublient leur passé, nous a dit Adorno, sont condamnés à le revivre. Ce n'est l'air qui nous menace le plus, mais l'oubli. Mais qui sont dangereux, mais l'amnésie. Et c'est la vitalité de ce même mal la construction. Après les massacres des derniers siècles, il n'était plus permis d'oublier. Grâce à l'existence, même insatisfaite, il n'est plus possible. N'est-ce pas un service irremplaçable? Merci de votre bienveillante attention.
C'était Jean-Louis Servan-Schreiber, journaliste, essayiste, fondateur, éditeur du magazine Psychologie. Jean-Louis Servan-Schreiber en séance publique devant l'Académie des sciences morales et politiques le 20 juin 2005 pour la communication intitulée « L'histoire au péril des médias », une série de communications intervenant dans le cadre de l'année de travail définie par le président de l'Académie en cette année 2005, l'historien Jean Tullard. Le thème de travail, c'est « Faut-il faire confiance aux historiens ». Vous pouvez retrouver l'intégralité de la le texte transcrit de cette communication de Jean-Louis Servan-Schreiber. Pour cela, il faut œuvrer sur le site internet de l'Académie des sciences morales et politiques, dont voici l'adresse www.asmp.fr. Merci d'écouter Canal Académie, la première radio académique francophone au monde. La suite de votre programme dans un instant.
Vous écoutez Canal Académie.